dans cette release de CPU ? Un volant ? Un accélérateur ? Un frein, hein ? Et un pilotage purement automatique. Cette semaine, Pia et Anthony vont parler de voitures et d'applications. Et j'espère que tout le monde a mis son téléphone sur silencieux, pas de SMS sur la route non plus, hein. On vous le rappelle, on ne sait jamais. Ok, allez, c'est parti. Bonjour Pia.
Hello.
Bonjour Anthony.
Salut.
J'espère que vous allez bien et tout. Pas trop malade sur la route ?
Non, on n'est pas mal.
On est venu à pied.
Bon, super. Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat. Toi qui as trop hâte d'en découdre sur les embouteillages de la rocade. Il y a 2 ans, à ce micro, un ingénieur dans l'automobile embarqué nous a raconté quelques secrets sur les boîtiers électroniques et les voitures autonomes. Après cet enregistrement, qui s'est fait sur les chapeaux de roue, bien évidemment, on avait parlé de la voiture électrique et notamment qu'il faille paradoxalement lui ajouter du bruit pour que d'autres usagers de la route s'aperçoivent de la présence de roulante. Oui, oui, sérieusement. Pour prévenir les piétons du passage d'une voiture électrique, il fallait rajouter des samples et pas que le bip 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 de marche arrière. Et du coup, eh ben, il devenait possible de choisir entre... Ça m'éclate, attendez. Et il y a aussi celui-là. Franchement, il est trop sexy. Et ou encore plus classique, hein. Et attends, non, franchement, je m'éclate. Je suis désolé, mais c'est un gros jouet là que j'ai. Je laisse trace pour transsonver. En elf est totalement pété. Je rentre coque dans les poches. Non, pardon. Non, ça, en fait, ça, c'était franchement nul. Ça me rappelle le temps où on téléchargeait des sonneries de portable fantasy, sauf que là, on prend le prétexte de la sécurité pour s'enfoncer dans le ridicule. Non, mais franchement, qui choisit PNL pour rouler à fond, comme ça Je vais sortir un truisme qui ne casse pas 3 roues à une trabante. La voiture électrique implique plus d'électronique et donc offre plus d'assistance à la conduite. La voiture est désormais capable de conduire toute seule avec des réflexes bien plus aguerris que la totalité des conducteurs humains. Enfin, sur les tout derniers modèles, et si t'as sorti le chéquier, bien évidemment. Pendant ce temps, l'Arabie Saoudite va enfin autoriser les femmes à conduire parce que si les robots le peuvent, hein, cela montre franchement le niveau très arriéré de certains pays, même les États-Unis ne condamnent plus à mort les chauffards. La chaise électrique marche très mal sur les mauvais conducteurs. Le véhicule qui se conduit tout seul est capable d'optimiser son autonomie et de faire de réelles économies d'énergie. Elle ne se sent pas obligée de vrombir un feu rouge parce qu'une très grosse cylindrée vient de s'arrêter juste à côté d'elle. Et cela me fait penser à cette nouvelle de Dino Buzzati, le fauve au volant, extraite de son anthologie Le Cas, sortie en 66, je crois que vous n'étiez pas né. L'auteur est un envoyé spécial en enfer pour un grand quotidien d'information italien. Ah, bon, tiens, ça, je suis à peine surpris. Le narrateur découvre le plaisir jouissif d'être au volant et d'avoir une conduite très très agressive. Il faut dire que les constructeurs des voitures démoniaques vernissent le volant avec un mélange d'amphétamine pour que le conducteur soit le plus sauvage possible. Oui, rapport au PNB, tu sais, en fonction des accidentés, des rachats de voitures et tout, et des hospitalisations. Bon, personnellement, moi, je préfère rester calme quand je conduis. Je ne suis même pas adepte du salut mexicain au klaxon. Oui, parce qu'au Mexique, en fait, ils abusent beaucoup du « bip, 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 bip », ce qui peut se traduire par une allusion professionnelle de la maman de celui qui vient de vous couper la priorité ou du piéton qui vient de s'engager sur la voie. Non, zen, calme. J'avoue qu'au volant, écouter un impromptu d'Eric Satie plutôt qu'un live d'Atari Teenage Riot, eh ben, ça me met dans une conduite douce, zen. C'est à peine si je remarque le vélo qui a grillé un feu rouge et qui atterrit sur ma portière. Bah oui, sur la route, l'enfer, c'est les autres. Enfant du futur immédiat, cher agent d'assurance qui me fournit ma vignette verte, Oui, le véhicule autonome apportera sûrement un net gain de sécurité sur les routes, comme le fut l'ajout des ceintures de sécurité, des airbags et des panneaux stop. Mais le problème est l'acceptance d'un engin d'une tonne roule sur une ville entièrement pilotée par un ordinateur, et donc sans conducteur à engueuler à la place de ses propres fautes de conduite. Un aveugle qui cherche sa voiture avec sa canne blanche peut de nos jours se comporter bien mieux sur la route que le scooter qui a les écouteurs aux oreilles, fait des roues arrière et fonce tout droit au feu rouge au risque de se prendre un gamin qui traversait gaiement sur le passage piéton. D'ailleurs, si tu te reconnais dans cette description, oui, je t'ai vu faire, et c'était pas très loin, c'était juste à l'angle de chez moi. Où en étais-je ? Ah oui, l'acceptance du véhicule autonome, que cela soit un véhicule particulier, un autobus, un 33 tonnes ou un char d'assaut, puisque l'armée américaine a converti des chars d'assaut en pure autonomie, ça fait un peu peur. Ainsi, lors d'une expérimentation menée par Ford aux États-Unis, un conducteur de véhicule a été déguisé en siège auto avant et envoyé rouler en ville au milieu de la circulation usuelle. La conclusion de cette expérience est que pour ne pas surprendre les autres usagers de la route, il faut que le véhicule dit autonome indique par des signaux lumineux dans quelle direction il regarde électroniquement. C'est amusant, non ? Les conducteurs, un minimum prudent, prêtent attention à la direction du regard des autres conducteurs. Privés de cette information, ils peuvent être perturbés par leur conduite. Alors doit-on considérer que l'humain n'est pas totalement prêt à céder le volant ? Pourtant, même les meilleurs pilotes ont besoin d'assistance. On a maintenant des boîtes de vitesse automatique, la direction assistée, le freinage ABS. Même les meilleurs pilotes du monde, ceux de Formule 1, ne touchent à aucune vitesse lors du départ d'un Grand Prix. Le démarrage du véhicule est totalement programmé. Le changement de vitesse est prévu au centimètre près positionné sur la piste. Sur le premier kilomètre, les pilotes ne font que toucher le volant et éventuellement appuyer sur le frein à cause d'une queue de poisson d'un autre, parfois pilote de la même écurie, mais ça c'est un autre débat. Et avec l'arrivée du parc assist, même l'épreuve du parking en créneau a été retirée de la Formule 1, sauf à l'hôtel du même nom. Enfant du futur immédiat, oui, la voiture individuelle n'est pas une réponse à tout. Mais tous les problèmes de transport ne peuvent être résolus en la bannissant. Alors déjà, on tente de rendre plus sûr à coup d'informatique. Mais cette sécurité est toute relative, car si se tromper est humain, devine qui programme les voitures autonomes. Mais oui, comme dit le hacker, donnez-moi une prise au DB2 en point d'appui et je vous soulèverai le capot. We'll be right back.
Jamiroquai, Traveling Without Moving, et c'est extrait de l'album Traveling Without Moving. Je vais finir par le prononcer correctement à la deuxième fois. Et ça date d'une époque où les V12 circulaient en ville et tout ça, etc. Enfin bref, vous êtes sur Radio FMR.
CPU carré petit utile.
Et là, je suis tranquille, je me mets en autopilote et je laisse Anthony et Pia, et puis voilà.
Bah, je tiens quand même à dire, Xavier, qu'en tant que cycliste, je suis un peu choquée. Enfin, cycliste occasionnel, il faut que je m'y remette. Mais je t'ai pas trouvé très très gentil quand même.
Bah, je suis cycliste aussi, mais moi, je pète pas les rétroviseurs des voitures qui sont garées. Où est-ce que vous en y étiez ?
On voulait faire un point sur nos actus de la rentrée avant de démarrer l'émission. On va essayer de parler des actus des autres. Pia, super. Enfin, ton recueil Sea Design est sorti. Enfin, en fait, ça n'a pas mis beaucoup de temps.
On a été assez rapide, ouais, c'était l'enjeu. On a fait une petite publication auto-publiée avec Irène Duniac, qui est chercheuse en design aussi. Et voilà, au lieu d'avoir un délai de 3 ans pour avoir une publication universitaire, le voilà, youhou, il sort. Et il est également publié en ligne.
Et imprimé à la demande.
Ça, c'est cool.
Ce qui a pris plus de temps, par contre, c'est cet article scientifique dans la revue MEI qui est sorti finalement après, bien après même notre émission là de Jarvis, qui est elle-même bien après l'écriture de ton article.
Tout à fait, et ça nous parle aussi, ça développe un petit peu les points qu'on avait amenés sur la question du majordome. Sinon, Anto, peut-être que tu veux nous parler de ton actualité, donc je te passe la parole. J'ai cru comprendre qu'il y avait une histoire de rétrospective Bertin à l'EHESS.
Ouais, Jacques Bertin, ce simiologue cartographe dans les années 80-90 qui a codifié tout langage graphique de la géographie, c'est avec Annelise Renon de l'EHESS qui dirige une rétrospective. Je ne veux pas m'attarder, mais ce sera une exposition, des workshops et une journée d'études. Donc, il y a de quoi faire fin novembre à Paris.
Tu vas aussi occuper le terrain sur les librairies, si je ne me trompe.
Elles sont un peu vidées, parce que ma rue Back Office est quasiment épuisée. Donc, Xavier, c'est collector. Tu pourras gagner de l'argent avec ça, peut-être plus que tes BD.
Penses-tu, j'ai des revues qui valent encore plus et que j'ai payé encore moins. Mais
voir,
franchement, c'est un succès mérité parce que c'était une excellente revue de ce côté-là.
On prépare le 2 et puis j'ai aussi un livre qui devrait sortir. C'est un peu quand même, oui, ça tarde, mais bon, Design et Humanité Numérique chez B42 en fin d'année.
Ah, la publication, c'est un peu un running gag, hein, on n'en finit pas de l'annoncer. C'est pour ça d'ailleurs que de mon côté, j'ai créé une petite revue en ligne, ledigeste.fr. Donc ça, c'est pareil, on vous en donnera des nouvelles. Il y aura sans doute des ponts à faire avec l'émission. Et puis la rentrée, ça c'est une actualité commune, le master DTCT, design transdisciplinaire, culture et territoire, parce qu'on n'a pas assez d'acronymes dans nos vies, fais ta petite rentrée là dans une ou deux semaines, on va accueillir nos étudiantes et étudiants.
On précise qu'on enregistre début octobre.
Ah oui, zut, alors du coup c'est fait, ça y est, la rentrée est passée.
Étudiants.
Non, alors j'avoue, j'ai du mal moi, avec la compression temps, espace-temps, tu vois, je pourrais pas faire Doc et Marty, tu vois, ça fonctionne pas. Il y a un continuum temporel qui part en live à chaque fois. Bon, alors ça tombe bien tout ça, toutes ces actualités, on peut aussi reconnecter au passé, c'est-à-dire notre dernière émission, on n'a toujours pas trouvé l'amour, enfin moi non, en même temps je le cherchais assez moyennement et plutôt mollement. Néanmoins, on va reparler de désir.
Killed by Yacht, un podcast présenté par Anthony Mazur et Pia Pandelakis.
Désir d'objet cette fois, on bascule dans l'histoire déjà ancienne du design, à savoir les tensions, les relations entre humanisme et capitalisme, et pour ça, la bagnole est au cœur. Alors, je vous entends déjà, chers auditeurs, maugré, non, on ne parlera pas des voitures autonomes, ça a déjà été traité ici, puis c'est un peu tarte à la crème en fait. Les voitures autonomes vont-elles arriver? En fait, la réponse est oui, elles sont déjà là, donc il faut en prendre acte. C'est plus la science-fiction comme on dit.
Tout à fait, et puis bon, alors finalement la voiture est un thème quand même assez éculé. On va être obligé de redire des choses qui sont extrêmement clichés. La voiture, c'est finalement depuis les années 50, au moins aux États-Unis et puis sans doute dans tout le monde occidental, le désir ultime du citoyen moyen qui suit ce qu'on lui dit dans la société de consommation. On a une voiture individuelle pour aller de son suburb, c'est-à-dire de sa banlieue à la ville, avec une magnifique division travail-domesticité. Alors là, j'anticipe un peu, ça va nous ramener aux questions de genre, mais promis, je vous fiche la paix avec ça jusqu'à la fin de l'émission. Nous, ce qu'on va... on verra bien, on prend les paris. Ce qu'on voulait dire avant toute chose, c'est sur ces questions de bagnole, c'est ne pas parler de la voiture en tant que telle, mais bien de la resituer dans un environnement d'objets. Ça, c'est un concept qui nous est cher, c'est de jamais considérer les objets comme des unités autonomes justement et isolées, mais bien comme des objets pris dans un réseau de fonctions. Et donc justement ce que tu disais Anthony, on parle toujours de voitures et science-fiction comme si c'était un enjeu énorme. On lit des titres d'articles du type « La voiture autonome, ce n'est plus de l'ASF ». Moi je trouve très éloquent le fait que des contenus de fiction contemporains comme Black Mirror n'investissent que très peu la voiture finalement relativement à d'autres problématiques ou alors dans des ressorts scénaristiques qui tiennent pas du tout de l'ASF. Par exemple dans un épisode de Black Mirror, il y a un accident de voiture mais enfin qui est décorrélé des questions de technologie. Ou alors on a un épisode dédié à la popularité et effectivement là, la dégringolade sociale du personnage qui perd tous ses points de popularité, cette dégringolade est incarnée dans la perte de la voiture, donc on a une forme de cloud score poussée au paroxysme. Alors juste aussi, on nous a dit d'arrêter de jargoniser outre mesure, donc le cloud score c'est une cumulation de tous vos scores de popularité sur les réseaux sociaux.
Oui, qui donne un score sur 10 ou 100, je sais plus trop, mais voilà, plus non, on est élevé, plus on a droit à des réductions des hôtels, avions, etc.
Ouais, alors on va arrêter quand même à chaque fois de faire des explications, ça fait diminuer notre cloud.
Non, cela étant, donc dégringolade sociale du personnage, comme je
gros,
le disais à l'instant.
En gros, elle est fauchée.
Elle est fauchée, mais surtout, c'est pas très original. C'est-à-dire que bah, vous n'avez plus d'argent, votre voiture est pourrie. On n'a pas besoin d'avoir des voitures hyper techniques ou technologisées, entre guillemets, pour ça.
Comme quoi, t'as une histoire de cycliste, fauché socialement, mais toi, t'as plus d'argent pour la radio. Bon, c'est un peu compliqué la voiture en ce moment, quoi. Et à Paris, c'est encore pire. Là, il y a. Je lisais récemment les articles des mass médias qui sont en quête des vrais gens parce qu'il y a les voies sur berge qui ferment, c'est réaménagé. En gros, les vrais gens pour les mass médias, c'est ceux qui ont une voiture. Voilà. Les autres, on ne sait pas trop. Mais...
Et pourtant, vous avez deux vrais gens dans ce studio qui n'ont pas de voiture. Je crois qu'il y en a même un qui n'a pas le permis, je ne donnerai pas de nom.
Mais je l'ai.
Tu l'as.
T'es
mais...
une mauvaise foi.
Mais alors, moi, c'est moi qui l'ai. J'ai 10
ah
ans.
Ah merde, c'est moi qui ne l'ai pas.
Non, alors je tiens à dire que j'ai mon permis, mais je dois avoir peut-être 100 heures cumulées de conduite depuis 10 ans. Désolée, je fais encore du gonzo.
Je suis pas sûr d'en avoir autant.
Bon, pour revenir aux vrais gens et aux aspects politiques, moi je suis toujours frappée de voir à quel point la voiture est un enjeu électoral, c'est-à-dire un enjeu politique, enfin en tout cas une partie de la politique. On n'a qu'à voir Anne Hidalgo, hein, que par ailleurs je porte pas trop dans mon cœur, mais pour d'autres raisons, a fait les frais hein, de cette question de la politique de la voiture dans la ville, en faisant ses choix d'ouvrir des voies sur berge et de repousser les voitures hors de la ville. Pourquoi ? Alors, une possible explication qui, moi, m'intéresse, c'est qu'en repoussant les voitures hors de la ville, on peut aussi repousser les moins favorisés. Même si, bon, Anthony, tu vas dire que je radote sur les questions de classe. Du coup, je passe à autre chose, la voiture et son écosystème. Moi, j'aime bien considérer des points de détail sur la voiture. Et notamment, je l'avais fait en parlant des clés de bagnole au cinéma. Alors, c'est bien joli de parler de voitures et de technologies embarquées, mais il faut donc toujours recontextuer la voiture dans les autres objets. Ça peut être les clés de bagnole, ça peut être la place de parking, on en partira tout à l'heure. Et donc, j'aimerais pour commencer qu'on s'intéresse au passé de la voiture et donc qu'on prenne le sujet à rebrousse-poil. Il y a un super article de Nautilus qui demande si les voitures n'auraient pas sauvé nos villes des chevaux. En effet, quand à la fin du 19e siècle, début du 21e siècle, 20e siècle, pardon, les voitures sont arrivées, on les considérait comme des objets écologiques puisqu'elles sauvaient la ville de ses chevaux et donc de ses kilos de purin qui étaient déversés dans les rues.
Oui, c'est l'histoire de la modernité, c'est aussi la construction des grands axes pour qu'on puisse circuler ou voir des chars d'assaut à Berlin-Est. Et ces rues pleines de purin, bah, c'est drôle parce que comme toujours, il y a une application pour ça. Et donc, au Japon, il y a une application pour signaler les crottes de chiens non ramassées. Alors après, est-ce qu'on se ramassait si, je crois que tu avais trouvé une sorte de motocrotte assez drôle au niveau du design japonais. Mais...
Oui, alors bah, au Japon, il y a toujours des trucs sympas et un peu bizarres. Après, honnêtement, j'ai été un peu déçue. Ça ne fait que ramasser les crottes. Je pensais que ça serait un peu augmenté, qu'il y aurait des fonctionnalités sympas. Ou qui sait, un emoji caca géant perché sur le,
bah, c'est plus
sur le dos de la moto.
Au Japon, figure-toi, cet emoji, il a été intégré assez récemment dans Gmail. Google ne voulait pas, mais tellement populaire que ils ont dû quand même le rajouter dans les emojis de Gmail.
Il était dans le jeu originel de NTT Docomo, donc ça remonte à 97.
Je vous arrête, on a atteint le point caca dans la conversation.
Ah, mince !
Et on est que au début de l'émission. Alors je reviens sur nos moutons et peut-être en te lançant Anthony sur une question qui moi m'intéresse, c'est cette relation téléphone-voiture. Parce que voiture et technique, ça, bon, je pense qu'on a compris que c'était pas trop le sujet qu'on voulait aborder. Mais le téléphone et la voiture, pour le coup, sont des objets de la modernité.
Bah, Kill Bayap, ouais, on doit quand même parler de ça. Et ce que tu dis m'intéresse, que la voiture est effectivement l'emblème du XXe siècle, et XXIe siècle, ben, l'objet, peut-être, c'est le téléphone. Après tout, l'iPhone a été vendu à 1 milliard d'exemplaires, à peu près, si on prend tous les modèles cumulés. Et du coup, certains se plaignent que ça évolue pas. Même un téléphone à 1000 euros, pas grand-chose de plus. Donc peut-être que ça tombe à plat, le téléphone à présent, un peu comme les voitures qui se renouvellent pas tellement. Tu sais ce que disait Nicolas Nova sur le fait qu'on n'ait toujours pas de voiture volante ?
Les voitures volent toujours pas, remboursées ?
Ben, à la place, c'est ce que disait Peter Thiel, le fondateur de PayPal. On a 840 caractères. On peut pas se plaindre de tout. Bon, un peu plus maintenant, 280. Ça s'élargit, comme d'autres choses. Donc la voiture, c'est un objet étrange, parce qu'on a, finalement, c'est très paradoxal. On a l'impression qu'elle ne change pas beaucoup. Certes, elle ne vole pas. Pourtant, elle a subi déjà énormément de mutations. Peut-être les Rolls-Royce ont toujours cet emblème que Rin Panofsky, l'historien de l'art, a banalisé. Mais sous le capot, quand même, c'est plus trop la même chose. Donc finalement, est-ce que ça a encore du sens de parler de carrossage à propos des voitures ? Est-ce que c'est pas plus compliqué que ça ?
Bah, c'est vrai que quand on est dans une orientation sur la culture du design et qu'on s'interroge sur la question des voitures dans l'histoire du design, on pense immédiatement à ce qu'a fait Raymond Loewy pour la Studebaker, on pense immédiatement à la Citroën DS par Bertoni Lefebvre. Et bien sûr, sur la DS, il y a les extraordinaires textes de Barthes, hein, dans les mythologies. D'ailleurs, je les ai relus pour l'occasion, et il y a vraiment toute cette question de l'apologie du lys. Et je me disais, mais c'est quand même super intéressant, parce que Barthes voyait dans la DS une apologie du lys, et on voit qu'on le retrouve avec les téléphones aujourd'hui. Hein. Finalement, l'iPhone est un objet extraordinairement lisse, muet, et peut-être encore plus muet que le carrossage lisse de la DS. Du coup, moi, j'ai envie de me demander... Bah, peut-être qu'on peut laisser de côté ces questions de peau, la partie lisse, visible, et se poser la question d'un design invisible, peut-être un design d'interaction. Je ne sais pas, Anthony, ce que tu en penses.
Est-ce que ça a encore du sens de séparer l'intérieur de l'extérieur dans le design ? C'est aussi Baudrillard qui parlait de l'aile de la voiture, toujours cette idée d'aérodynamisme ou d'envol. En tout cas, cet invisible, c'est lié à une promesse d'autonomie. C'est effectivement, on va quand même parler un tout petit peu de l'autonomie, mais ces promesses de voiture qui conduiraient sans nous, qui conduiraient nos vies, vu qu'on est incapable, on est tellement stupide et désorganisé de conduire nous-mêmes. La raison humaine est bien trop faillible, c'est ce que disent les auteurs de « Quand la raison faillit par de l'esprit », ces auteurs parlent de bol de mélasse de la raison humaine, qu'il faudrait remplacer par quoi ? Bah, par du calcul rationnel, vérifiable, prouvable.
J'ai l'impression qu'il y a comme une dualité, on le voit là dans notre discussion, entre deux choses, c'est-à-dire des voitures autonomes qui sont là, qui existent, mais qui en même temps sont un peu un point aporique de la conversation, parce que finalement on ne sait pas trop quoi en dire. Et puis ces fameuses voitures volantes qu'on nous promettait, qu'on n'a pas, et qu'on a, parce qu'en fait, justement, à Dubaï, ils les ont, apparemment, dans The National. Et apparemment, cet été, les voitures ont commencé à voler à Dubaï. Il y a aussi plein d'autres projets. Hein, le projet Terrafugia, apparemment, c'est un projet qui a 11 ans. Il y a une entreprise slovaque qui s'appelle Aeromobile, alors dont la tagline est quand même « The future is coming ». Le futur arrive. J'ai essayé de compter le nombre de fois où ils utilisaient le terme aérodynamique dans leur site, j'y suis pas arrivée. Et le Vahana d'Airbus, dont on nous dit qu'il va être peut-être une ambulance, mais aussi une limousine, parce qu'il faut pas rigoler quand même, c'est mieux que ces technologies restent réservées aux riches.
Donc à faire, ouais, enfin bon, ton drone taxi, ça va bien faire rêver Uber. Ils n'ont même plus à gérer des chauffeurs qui se mettront en grève ou qui vont bloquer la place de la Concorde.
Mais tu crois pas si bien dire, il y a un service qui s'appelle Uber Elevate. Alors franchement, allez regarder la vidéo, on vous explique que c'est génial, il y a plein d'embouteillages et si on emmène le trafic dans le ciel, les problèmes seront résolus. Mais vous n'avez pas vu les 150 films de science-fiction qui montrent qu'il peut aussi y avoir des embouteillages dans le ciel. Mais bon, on n'en est pas là encore pour le moment, mais c'est une vraie question. Hein. C'est-à-dire qu'ils s'interrogent, ils ont un pôle de recherche qui intègre ça. Hein.
Ouais, K2000, ça me parlait plus. Mais en tout cas, Pia, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que dans cette quête d'autonomie, il n'y a pas des résurgences super fortes de la cybernétique, cette science du pilotage qui promettait d'organiser toutes nos existences dans les années 60 et avec ces voitures télécommandes, l'application, le design de service, on est encore là en fait. On commande n'importe quoi du dehors depuis son habitacle, depuis son petit chez-soi.
Oui, et puis ça a un effet de design tout à fait clair avec le modèle du tableau de bord. Alors je l'ai étudié pas mal parce que cet été, je me suis amusée à tester des applications de gestion des règles, les règles féminines donc, enfin... même si je déconstruis cette idée, mais bref. Mais tout ça pour vous dire que même dans un sujet qui a l'air aussi éloigné de la voiture, on retrouve le modèle du tableau de bord. Bientôt, on aura un tableau de bord pour tout, pour gérer son quantified self, son sport, son enfant, son chien.
Bah, ça tombe bien que t'en parles, parce qu'Apple justement a lancé quelques années, mais c'est assez récent, ce CarPlay, ce tableau de bord, où on peut du coup déporter son téléphone dans son habitacle, passer des coups de fil, regarder la météo, etc. On peut tout gérer, Siri, et dans la voiture. Mais peut-être vous voulez dire quelque chose des GPS et de ces environnements-là aussi ?
Non, moi je voulais faire un petit peu un point troll parce qu'on n'arrête pas de parler de la connexion téléphone-bagnole, que ce soit avec Uber, les apps de contrôle de Parkmed, de parking, de GPS ou que sais-je. Mais il y a un lien qui est évident aussi entre téléphone et bagnole aujourd'hui, c'est la voiture piégée et ça reste quand même dans les imaginaires quelque chose de très important et on peut pas connecter les deux sans les rapprocher. Pourquoi je dis ça ? C'est pas uniquement une question de trolling, c'est aussi qu'il faut parler de la relation de la communication à la voiture. Parlez pas de la CB ici parce qu'on n'en a pas le temps, mais en fait la petite idée qu'on va amener un petit peu plus tard dans l'émission, c'est la voiture comme super téléphone, mais juste après une petite page de publicité.
Équipée d'un moteur de 45 chevaux et d'un système de frein anti-blocage, cette voiture est la Hatchoum 3D, la version XL de la Hatchoum Mini. Son klaxon imite le son d'une personne qui éternue. L'élégance de ses courbes mariée à sa robustesse font d'elle un véhicule tout-terrain qui se conduit aisément et avec sécurité et en font le meilleur de sa catégorie.
Je suis Monsieur Hatchoum, Hatchoum.
Oh, ce programme est hyper naze, ça ressemble à ce que nous sert le service public.
Ouais, et encore là, je trouve que le mec joue pas trop mal.
Vous écoutez Radio Éphémère, c'est CPU.
J'entends la sirène.
Wouah! Wouah!
Ah, j'ai une carte comme parfum. On me met dans l'ambulance qui démarre et qui s'élance. C'est pratique le gyrophare pour doubler tous ces connards. Vas-y, appuie dessus, ça y est, tu l'as vu.
Les Don Troppo, le roi de la route, extrait de leur spectacle La Mission, sorti en 93, et juste avant donc la publicité, était extrait du dessin animé Rick and Morty, disponible sur Netflix. Vous écoutez Radio FMR. Et donc c'est CPU et nous parlons de véhicules dans Killed by App.
Killed by App.
Apple CarPlay, le copilote dont vous rêviez. Disponible sur certains véhicules, CarPlay est un moyen plus intelligent, plus sûr et plus ludique d'utiliser votre iPhone en voiture. Avec lui, tout ce que vous avez besoin de faire avec votre iPhone apparaît directement sur l'écran intégré de votre voiture. Obtenez des itinéraires, passez des appels, échangez des messages, écoutez de la musique. Tout en restant concentré sur votre conduite, il vous suffit de connecter votre iPhone.
À condition, bien sûr, d'avoir un iPhone. Et là, évidemment, on revient à nos questions de privilèges économiques et donc de classe. La relation entre classe et transport et la manière dont la voiture, en fait, va être productrice d'inégalités. C'est-à-dire qu'on est déjà en train de voir des choses qui se produisent là dans le monde occidental, et, mais pas seulement. Un zonage de l'accès à une ville, des systèmes éventuellement de portiques. On imagine un peu quelqu'un dire « bah t'as pas la bonne caisse, tu rentres pas en centre-ville ». Ça paraît relativement loin et en fait ça ne l'est pas. Alors on le voit déjà avec les taxations pratiquées à Londres, Paris, au prétexte de l'écologie. Alors petit rappel, hein, les émissions de CO2 venant des voitures, ça n'est que 14% des émissions de CO2. Donc quand on nous dit de ne pas prendre notre voiture pour sauver la planète, il faut quand même nuancer. En Californie, au même moment, on parle d'interdire les voitures qui roulent au gasoil, tandis qu'en Norvège, l'approche elle est davantage du côté de la récompense. On supprime les charges de parking, de recharge pour des voitures électriques, ou le coût même du ferry. Ce qui marche plutôt pas mal, puisqu'apparemment à Oslo, un quart des voitures vendues sont des voitures électriques. Donc en fait, on le voit, il y a des manières comme ça d'entailler des marchés ou de produire des nouveaux comportements, soit à la hausse, en offrant, enfin, ou en obligeant des gens à acheter certains véhicules pour pouvoir rentrer en ville. Bah, à l'inverse d'autres entailles qui étaient faites, moi je voulais parler, alors le lien semblera peut-être distant, mais on se souvient des fameux bus Macron qui avaient créé une troisième classe dans l'offre de train. Alors d'un côté on crée des troisièmes classes, de l'autre on crée des super premières classes. C'était un peu mon point.
Bon, heureusement j'ai pris un bus Macron pour venir à Toulouse de Paris, ça fait un peu long. Mais en parlant des bus, je voulais te soumettre bien un exemple récent, 2017, ce smart bus intelligent, Citymapper à Londres, Citymapper du service de l'application du même nom, application de transport qui compare plusieurs modes, vélo, piéton, etc., métro. Et donc c'est intéressant, ils ont amassé comme ça tout un jeu de data assez impressionnant d'intermodalité que même les régies de transport n'ont pas. Donc c'est les anciens de Google et donc à Londres, ils ont comme ça identifié un itinéraire délaissé dans le milieu urbain, plutôt en fin de soirée ou dans la nuit, qui du coup va du grosso modo du centre-ville à la banlieue nord. Donc une faille dans le système de transport que même la régie londonienne n'avait pas identifiée. Et donc pour répondre à ça, bah, ils ont tout simplement développé leur propre bus. Donc l'application devient transport littéralement. Et donc évidemment, comme c'est une application, c'est le bus du futur. Donc on a des écrans tactiles, des prises USB pour recharger son téléphone, pour consulter des applications, etc. Donc du coup, alors ça pose plein de questions évidemment, notamment celle de l'abandon de la puissance publique à des acteurs privés. C'est ce que Morozov appelle la réglementation algorithmique. Qu'est-ce qu'il en viendra quand du coup tous les transports auparavant collectivisés seront du coup soumis à des puissances financières qui pourront les arrêter du jour au lendemain.
Et en même temps, je croyais qu'un des enjeux, c'était carrément de penser une ville sans voiture.
Bah, c'est une vieille question, en fait. C'est la façon dont l'automobile change la ville, la façon dont la ville est redessinée. C'est ce que Antoine Picon, finalement, dit que la forme des villes n'a pas vraiment changé ces dizaines de dernières années. En fait, l'architecture, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une question d'invisible. En fait, ça change l'intérieur, mais les façades sont toujours les mêmes, que ce soit celle des bâtiments, des rues ou des voitures.
Moi, je voulais revenir aussi sur le partage piéton-voiture et la manière dont on se répartit l'espace. Donc, en fait, d'une certaine manière, je reviens à mes rues pleines de purins du début de l'émission. Il faut quand même penser que la rue a radicalement changé depuis l'apparition de la voiture. Avant, c'était un espace beaucoup plus social, beaucoup plus ouvert. Et quand les voitures sont arrivées, elles jouaient vraiment le rôle de véritables intrus dans un espace auquel, là-bas, évidemment, elles n'appartenaient pas. Il y a un film qui est intéressant à voir comme ça, c'est La Foule, alors en anglais The Crowd, de King Vidor. C'est un film de 1928 dans lequel on voit un accident de voiture. Il y a une petite fille qui se fait renverser par un camion. Mais du coup, effectivement, c'est vraiment une anomalie. Cet accident est une anomalie complète. On est bien loin de la forme consacrée de l'accident au cinéma qu'on voit depuis dans les franchises type Fast and Furious. Au final, tout ça repose une vieille question sur la manière dont la culture automobile, et ça c'est hyper important, c'est pas seulement l'automobile, c'est la culture automobile change la ville. Moi là-dessus, il y a un bouquin qui a eu un effet assez déterminant sur moi, ça va te parler Xavier, c'est une BD qui s'appelle Les Manches Bitumes, qui était parue en 1974 chez Dargaud. Je te vois hausser les sourcils, je pourrais dire que c'est arrivé, je t'ai parlé d'une BD que tu ne connaissais pas, dessinée...
Bravo! Bravo!
Dessiné par José Bielsa et scénarisé par Jacques Loeb.
Et on... par Jacques Loeb. Le Loeb de Super Jacques Dupont Loeb, et tout ça.
Voilà.
Okay. Et je vais chercher mon BDM derrière celui.
Dans lequel on observe un glissement, en fait, où ça retrace tout l'historique des autoroutes ouvertes par Pompidou. Mmh. Et puis, d'un seul coup, enfin, ou en tout cas.
C'est l'ère aussi de la privatisation, 74.
Exactement. Et la BD part de ça, en fait, pour expliquer un moment où il y a tellement d'embouteillages que les gens commencent à s'occuper dans leur voiture, à faire des loisirs, de la gym, à manger. Et petit à petit, ça glisse sur un modèle où les voitures deviennent des maisons et au final on passe son temps à rouler sur une maison mobile et on ne s'arrête que pour les loisirs dans des espèces de super resto-route. C'est vraiment assez intéressant et ça développe un thème en fait ancien qui est le thème de la voiture sur rail qu'on retrouve aujourd'hui dans d'autres films beaucoup plus contemporains comme Minority Report. Moi ce que je trouve hyper intéressant c'est que c'est ce modèle de fusion en fait. La fusion entre la voie de circulation, le module de déplacement et même si on porte le modèle au carré avec la maison elle-même qui devient, enfin on sait plus quoi et quoi en fait, toutes les typologies sont mélangées.
Ouais, puis tout est pris dans une sorte de défilement si je comprends bien, j'ai pas lu cette BD mais la maison devient mobile puis c'est une inversion de l'urbanisme. Et du coup, bon, chacun ses marottes, mais Virilio, j'aime bien quand même parfois. Et Paul Virilio, le philosophe.
Ouais.
Voilà, on a passé Deleuze, hein. Reste tranquille, Xavier. Mais du coup, on pourrait se demander si. Je ramène le téléphone quand même dans ce diptyque maison-voiture. Est-ce que quand on est dans la voiture et qu'on roule, on serait pas dans une sorte de téléphone, on serait embarqué dans une sorte de plan-séquence? Et est-ce que finalement la voiture serait pas une sorte de téléphone sur roue ou alors inversement la voiture aurait ouvert la voie au téléphone, une sorte de généalogie technique un peu bizarre que je te propose Pia. Puis je pense pour rester dans le cinéma à ces plans séquences retranscrits dans l'ouvrage Learning from Las Vegas de Robert Venturi l'architecte en 72 où du coup le défilement dans l'espace urbain vu depuis la voiture devient une expérience esthétique et pas vraiment quelque chose qui serait de l'ordre de la consommation, etc. Donc une sorte de poésie du défilement.
Bah, je suis contente que tu parles des esthétiques, parce que finalement, il faut aussi les ramener à l'urbanisme. On avait beaucoup parlé la dernière fois, enfin beaucoup, peut-être pas assez justement, de la bunkerisation des villes, pour des raisons de gentrification notamment. Hein, c'est-à-dire que plus les riches se mettent dans un endroit, plus ils ont envie de garder cet endroit écologique, fermé.
Les gated communities, hein, c'est ça. Hein.
Alors les gated communities, mais carrément, je crois que ça a été développé récemment dans d'autres articles, à l'échelle de villes entières qui seraient ceintes d'un mur et puis dans lesquelles il faudrait rentrer avec un droit d'entrée. Et puis les récentes catastrophes naturelles auxquelles on a assisté ont relancé ce thème-là. J'ai cru entendre récemment l'expression de ville résiliente. Voilà, donc c'est en gros, pour survivre, bunkerisez-vous.
C'est juste une petite coupure. Il y a eu un très bon téléfilm justement qui se passait au sein d'une ville fermée qui était très surveillée, etc. D'une manière assez étonnante, la traduction française de ce téléfilm s'appelait La Secte. alors qu'il n'est pas du tout question de secte dans le titrage, mais du coup la société s'était tellement repliée que les traducteurs se sont dit, eh ben, même on est au-delà du repli, on est en dehors de la société.
C'est intéressant sur les perspectives ouvertes par cette fameuse bunkerisation. Néanmoins, là, on le reconnecte toujours à la voiture. Quelle place pour la voiture dans de tels environnements ? Qu'est-ce que c'est ? Des voitures que l'on gare à l'entrée des villes ? On se déplace à l'intérieur en transport en commun ? En même temps, ce modèle-là, même s'il était idéal à un moment donné, il est forcé par des mesures économiques. C'est arrivé à Londres depuis... Alors, 2003, Londres a la zone à accès restreint la plus grande au monde. Et c'est pas du tout parti pour s'arranger. Avec, alors, il y a la Congestion Charge Zone, c'est la CGZ, hein, c'est vous ne pouvez entrer qu'à condition de payer un droit d'entrée. Et puis Londres va encore renforcer ces mesures-là avec un Ultra Low Emission Zone. Ça veut dire que vous ne pourrez rentrer que si vous avez le véhicule adapté, ce qui est en fait une sélection économique qui ne dit pas son nom. Donc, nous voilà dans ce modèle, ville pour les riches, gardée par un mur et des checkpoints. On n'est pas loin là du modèle de ce splendide film des Fils de l'Homme entre gestion des migrants sur mode repoussoir, mur forteresse.
Ouais, et puis tu parles de ville, mais j'ai envie de t'amener sur les îles aussi, parce que finalement peut-être que le modèle ultime c'est même carrément la zone sur l'eau, les plateformes pétrolières avec les riches qui ont leur propre monnaie avec la blockchain et voilà, fuck les États. C'est une sorte de fusion un peu bizarre de l'extrême gauche et l'extrême droite au même endroit, une sorte de libertarisme.
Ça a rien de bizarre.
Poussé à l'extrême. Ou du coup, bah, sur l'eau, ta voiture, t'en fais quoi ? Mais en parlant d'urbanisme, peut-être on peut revenir sur les écosystèmes des voitures et des villes. Comme souvent, c'est intéressant de regarder ce qui se passe en Chine. On a des voies réservées aux piétons, qui eux regardent toujours leur téléphone, leurs applications, et sont distraits et risquent de se prendre des voitures, voire des cyclistes. Mais il n'y en a peut-être pas beaucoup, des cyclistes. Du coup, y a cette sorte de cinétique qui est faite pour être vue en même temps qu'on a son téléphone, donc c'est assez intriguant. Et dans un autre registre, les places de parking sont aussi intéressantes du point de vue applicatif. J'avais rencontré à Paris des créateurs d'une start-up, du coup on peut louer sa place de parking, bon, rien de très intéressant. Mais ce qui était un petit peu original, c'est qu'il y avait une dimension d'objet, ils avaient réussi à rendre programmable ce petit bip infrarouge, cet objet auquel on ne pense pas souvent, pour le rendre compatible avec tout un tas d'immeubles. Donc tu peux comme ça louer ton immeuble et quelqu'un peut squatter ta place.
Bah, c'est super intéressant et je suis ravie que tu parles de ça parce que ça nous amène à la question de la place occupée par les voitures et la question du garage qu'on oublie perpétuellement. Moi, je reste toujours bloquée sur ce passage de mon oncle, de Tati, avec la porte du garage qui se baisse, qui se lève et qui est déjà une critique de l'automatisation. Mais là où c'est intéressant, dans ce garage, ce lieu garage, en plus d'être un contenant pour voitures, c'est aussi un lieu super symbolique de l'histoire de l'informatique. Dès lors qu'on parle de la naissance des ordinateurs personnels ou même de l'économie de la Silicon Valley, c'est toujours Bill Gates dans son garage, Steve Wozniak dans son garage.
Ouais, ça se visite, hein. Même les faux garages se visitent.
Mais souvent les garages ne sont pas utilisés pour les voitures d'ailleurs.
Il y a bien eu la garage musique, est-ce qu'il y a la garage tech, je sais pas. On voit que le garage là, il est à l'interface de deux cultures technologiques, à la fois celle de la voiture et de l'ordinateur. Là où c'est intéressant, c'est encore des histoires d'espace, c'est que c'est la voiture qui a généré la suburbanisation, donc toute cette économie fondée sur le fait d'avoir une banlieue, et puis la maison typique de banlieue avec son jardinet et puis son petit garage personnel. Du coup là, on peut revenir aux voitures autonomes, et si quelqu'un peut me renseigner sur ce magnifique système Renault Symbiose qui vient d'être inauguré, le concept car articulé voiture-maison. Alors apparemment, la maison récupère l'énergie que la voiture n'a pas utilisée. Mais enfin, c'est très flou. Hein. Quand on regarde sur le site, l'écosystème n'est pas clair. Moi,
peut-être
que
ça pourra marcher pour les Londoniens, ce truc-là, ouais, si mais c'est une émission faible.
On reste sur la même problématique, parce que si tu veux une voiture électrique, il vaut mieux que tu aies ton propre garage. Donc c'est encore plus segmentant sur le thème de l'écologie, de l'effort que tu veux faire.
Bah là, c'est pas pour les pauvres, hein. J'ai vu les images.
Ouais, puis certaines se mettent en grappe aussi, donc peut-être qu'il y a une possible fin du garage avec ces grappes de voitures qui restent dehors, je sais pas. Mais dans ce cas-là, c'est celles qu'on possède plus, hein. On est bien d'accord, c'est les voitures qui sont en location. En tout cas, bon, on voit qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de ces voitures, ces self-driving cars, ces voitures autonomes. Bon, celle de Google est évidemment connue, donc il y a plein d'approches. Certains militent en faveur d'un partage humain-voiture comme de les avions, ou alors pour d'autres, il faut laisser le contrôle complet à la machine. On serait, ce que disait Xavier, on serait moins intelligent que la machine, on est vraiment trop stupide. Cet article, hein, Your Robot Car Should Ignore You, voilà, la voiture prend le pouvoir. Mais après, il y a plein d'exemples de tests. Dès qu'un système marche, on lui fait confiance et on lâche l'attention. Du coup, on devient moins prudent. Et donc, c'est en fait cette vieille histoire, comme depuis Platon, qui disait on devient stupide avec la mémoire écrite, on ne sait plus mémoriser humainement. Est-ce que du coup, avec ces voitures autonomes, on va perdre notre capacité à nous conduire ? C'est un risque possible.
Bah, c'est une observation assez simple qui est faite par les personnes qui s'intéressent à ces questions-là, qui est que quand des talents, enfin skills, quoi, des manières de faire ne sont pas utilisées, bah, ces compétences se dégradent et régressent, sachant qu'il y a un enjeu là à plein d'endroits. Alors, soit parce qu'effectivement, je suis distrait, là, c'est les questions d'attention, j'ai mon téléphone dans la main, je ne peux pas conduire et je génère des accidents. Et puis, le vieillissement de la population, ça, c'est une chose dont on ne parle pas trop. Aux États-Unis, les mature drivers, donc les conducteurs matures, c'est une catégorie de population. Il y a des services qui leur sont dédiés, il y a des heures de conduite, même, je dirais pas des clubs, mais il y a des associations qui se constituent. Et puis, il y a même aujourd'hui des études qui sont faites en France sur le sujet, parce que c'est un vrai problème. La population vieillit, tous ces gens sont au volant. Voilà. Bon, je sais que c'est très cliché en même temps, avec des clichés genrés, bien
ouais,
sûr.
Oui, il y a cette saison du magazine Stravic.fr sur le granny design. Donc, évidemment, les applications pour vieux, c'est un truc sérieux, quoi. D'ailleurs, les iPads sont de plus en plus achetés par des personnes âgées.
Pourquoi je suis pas surpris ?
En tout cas, au-delà des robots, on peut se demander quelle est la présence sonore de ces voitures, la voix en fait, l'humanisation de cette voiture, voix féminine, voix masculine, je sais pas.
Comment t'as fait pour réparer cette bagnole ?
Oh, juste beaucoup de boulot.
Et voilà, c'est depuis qu'il a ramené cette voiture, il est vraiment obsédé par elle. Et il y a pire que cela. Quand nous sommes allés faire l'immatriculation à la mairie, ils nous ont dit que l'ancien propriétaire était mort dedans.
Christine.
Que sais-tu exactement sur cette voiture ?
Je sais que le gars qui l'avait avant Arnie.
Oui.
Sa fille est morte asphyxiée dedans.
Comment sais-tu ça ?
C'est son propre frère qui a vendu la voiture à Arnie. Ce mec est un con. C'est par lui que je l'ai appris.
Je crois que je devais être la victime suivante.
Arnie ne ferait jamais ça.
J'ai l'impression que ce n'est pas Arnie.
Extrait de la bande originale du film Christine, sorti en 1983, si je me trompe. Donc, c'était la bande originale française.
Ah. La météo d'Internet.
Oui, excusez-moi, un petit point info trafic sur Radio FMR. La route PCI est très encombrée, évitez la bretelle USB. Bison affûté vous recommande de préférer la rocade ESATA. L'excellent groupe monté par Yoko Kanno pour la bande originale du dessin animé et de la série télé et du film Cowboy Bebop, à savoir donc les Seat Belts et ses Car 24, un hommage appuyé effectivement au jazz d'une certaine époque et de la musique que l'on passait dans les voitures et tout ça. Et vous écoutez Radio FMR. CCPU, l'émission Carré Petit Utile.
Killed by Have.
On en était aux voitures, enfin je sais plus trop. Pia, oui. Anthony, qui
ouais,
lâche le volant
je vais,
là.
Je vais encore redécentrer hors de la voiture. Tout à l'heure, on parlait voiture autonome et j'avais viré autonome pour parler de la voiture. Et là, je vais virer voiture pour parler autonomie. Puisqu'apparemment, tracteurs et camions seront autonomes avant les voitures. En tout cas, c'est ce que nous dit l'excellent Usbek et Erika. Les bus, il y a eu des essais. Il y a un moment déjà, moi, une époque, j'ai vécu à Rouen, le fameux Théor qui était censé être autonome et puis qui s'est complètement planté dans ses premiers essais. Drones de livraison, tracteurs, bus, je l'ai dit, et même sac à dos. Alors, il y a un projet qui m'intéresse pas mal, c'est le Piaggio Fast Forward. Enfin, en tout cas, c'est l'entreprise Piaggio Fast Forward qui a créé le robot Gita. Alors, Gaston Lagaffe l'avait déjà fait. Hein. C'est, en gros, c'est une valise qui vous suit à roulette. Bon, alors, chez Gaston Lagaffe, les piles prenaient toute la place. Et on espère que Piaggio Fast Forward fait un peu mieux. Donc, on a vraiment une espèce de R2-D2 qui vous suit avec toutes vos affaires.
Est-ce qu'il peut recharger le téléphone?
J'aurais envie de dire que oui, parce que ça serait quand même un minimum prérequis.
Il reste la place que pour la brosse à dents et le dentifrice.
C'est exactement ce qui se passait dans la BD. Mais il va y avoir aussi des questions à se poser, parce que là, on voit que ça répond à un besoin. Moi qui ai mal au dos, je me dis, ah, c'est super, je mets tout mon bazar pour aller à la fac dans un robot qui me suit. Mais je me pose pas la question de savoir si tout ce petit bazar pourrait pas être mutualisé, passer
réduit,
dans les communs. Exactement.
Laissé sur place. En fait, oui, c'est ça, c'est le solutionnisme. En fait, ça croit résoudre quelque chose, mais. Peut-être que le système que ça crée crée un bordel beaucoup plus fort que ce que ça voulait résoudre. Et est-ce que ton robot, il parle en fait? Il a une voix féminine, masculine?
Hey, bah c'est le mot Gita donne presque l'idée que ça serait genré. Hein.
Ouais, c'est ça. Mais donc, c'est toute la question, des voix automatiques, synthèse vocale, etc., aux questions de genre. Avec notamment les ouragans là récemment aux États-Unis, ce dramatique ouragan Irma, et malheureusement pour nos amis américains, les noms d'ouragans féminins ne créent pas vraiment l'inquiétude. Il y a plus de morts quand les ouragans portent des noms féminins, parce que les Américains croient que c'est, enfin pas que peut-être, croient que c'est moins grave. Donc c'est quand même un vrai problème. Ça fait.
Bah on retrouve la même chose avec les GPS. Hein. Il y a eu cette fameuse controverse. Je crois que c'était BMW qui avait dû retirer des véhicules de la circulation. Ils se rendaient compte dans leur test que les utilisateurs masculins n'écoutaient pas la voix féminine du GPS, parce que c'était absolument insupportable pour eux d'écouter des consignes de conduite de la part d'une femme. Et quand bien même cette femme n'existe pas et est complètement dématérialisée ou recréée par l'intermédiaire d'une voix de synthèse.
Faudrait voir, je sais pas, Xavier, si dans Siri on peut changer la voix, je sais pas exactement où ça en est, c'est question
oui.
de genre.
Si, tu peux. Okay. Tu peux choisir dans Siri le genre de la voix que tu veux.
Bon, du coup, en termes de genre, peut-être que Pia, tu veux dire quelque chose sur Christine?
Bah, c'est-à-dire que Christine, finalement, c'est la version un peu horrifique d'un amour de coccinelle. Hein. C'est la voiture, on l'aime, on lui donne des petits prénoms. Non, mais il y a plein de gens qui appellent leur voiture Titine, tu vois, ça, c'est quand même des choses qui, quotidiennes, assez anecdotiques, mais qui sont assez intéressantes à noter. Au final, la voiture, on la traite un peu comme notre compagne, amie, ou mauvaise amie dans le cas de Christine. En fait, en termes de genre, la voiture, c'est un élément assez compliqué. C'est à la fois un objet codé comme féminin, donc le fameux amour de coccinelle, la petite compagne qui nous emmène partout, la compagne servante, bien entendu. Et en même temps, c'est un objet masculin, puisque c'est un symbole phallique de puissance, d'autonomie. C'est la puissance du conducteur, affirmée à la fois par sa conduite virile, et puis bien sûr la valeur marchande de la voiture, qui est loin, elle, d'être anecdotique. Être dans la voiture, conduire, c'est être en contrôle de la situation. D'ailleurs, il y a un trope au cinéma qui, moi, me fait mourir de rire. Il est récent, parce qu'il y a de plus en plus de femmes héroïques et qui prennent en charge des situations, sauf quand ils arrivent en bagnole. Et en général, là, il y a le mec qui dit à sa partenaire féminine « Stay in the car !» Genre, reste dans la voiture, comme si apparemment, c'était pas possible qu'elle fasse autre chose que de fouiller dans la boîte à gants. Mais bon...
Mais du coup, à la fois l'autonomie de pouvoir conduire et la puissance d'achat ou la puissance phallique, ces deux symboles, ils sont un peu ruinés dans la voiture autonome parce qu'elle va être louée surtout, donc plus de possession, et puis on ne conduit plus. Donc qu'est-ce qu'il en est des symboles masculins dans cette histoire? Et du coup, je ne sais pas, par exemple, au salon de l'auto, je n'ai pas été voir, mais est-ce qu'il y a encore des hôtesses, par exemple, qui viennent se prélasser sur ces voitures autonomes?
Les babes, tu sais qu'au Japon, les revues où tu as des babes en ruban et tout ça, c'est ce qui fait vendre les magazines de moto, c'est uniquement ça.
Oui, mais qu'on n'achète plus les voitures, est-ce qu'il y a encore intérêt à mettre des babes?
Bah, j'en sais rien et j'aurais tendance à dire que vu les répertoires formels de la voiture autonome, on va plus être dans cette relation sexuée ou sexuelle. Il faut dire quand même aussi que c'est guère mieux quand la femme est au volant, hein, les clichés genrés et donc sexistes la suivent. Renault, notre chère marque francophone française de voitures, avait proposé, il y a de ça quelques années, un vernis à ongles dans le cadre de sa campagne Twingo. Alors, Twingo décrite comme l'arme urbaine des femmes actives, hein, je cite. Et l'idée dans cette promotion, c'était de coordonner ses ongles à la carrosserie de la voiture. Alors, avec le même petit pot de vernis à ongles, vous pouvez vernir vos ongles pour qu'ils soient coordonnés et en même temps faire des retouches carrosserie puisque c'est l'enfer urbain, on raye sa voiture et comme on raye son vernis à ongles.
Bon, oui. Génial. Bon, je me lance pour une fois dans une question de genre un peu plus large, mais est-ce que la voiture ou la bagnole, c'est encore féminin avec ces histoires d'autonomie? La voiture sans conducteur, est-ce qu'elle reste conducteur? Est-ce qu'elle n'est pas conductrice du corps ou des corps, masculin ou autre? Est-ce qu'on peut encore être le roi de la route si on appuie les commandes? Mais finalement, est-ce que dans ces voitures autonomes, est-ce que ne persiste malgré... Est-ce que malgré tout, les facteurs sociaux, peut-être qu'on va toujours choisir quel véhicule on va louer, voire acheter, on peut le personnaliser. Est-ce que l'homme va malgré tout au moins choisir l'itinéraire sur son GPS? Et puis la propriété, autolib, est-ce que symbole de puissance, je ne sais pas comment... Voilà. Mais quand même, il y a des nouveaux comportements qui naissent de ces voitures-là. Alors à Paris, les voitures autolib sont utilisées par certaines comme des Love Hotel. Donc ça, c'est drôle. On retombe sur ton histoire de.
Est-ce qu'il faudrait pas expliquer Love Hotel? Après, on va nous dire qu'on jargonne.
Non. Oui, c'est
disons que ça colle à l'arrière. Affaires,
mais... Ou de façon peut-être plus surprenante, ce jeune Breton qui a violé une voiture de flic. Voilà.
Est-ce que tu peux nous préciser cette histoire
par le pot d'échappement, puis après, bon, il était ivre ou soumis à diverses drogues, donc il s'est arrêté.
Si vous voulez la finesse, plutôt avec Crash de Cronenberg sur la question sexe et voiture, parce que là, c'était dans quoi Non, pas le Midi Libre, puisque c'est breton, mais bon.
On va fusionner l'émission sur le désir, l'émission sur les voitures. Divers, tout ça est relié en fait avec ces exemples.
Non, mais on t'a l'air de troller, mais en fait, non, parce que toute cette histoire du Love Hotel, on revient vachement à l'idée du pod mobile. Hein. Mi-voiture, mi-appart. Peut-être que tu peux même l'utiliser pour faire des Deliveroo, je sais pas. Tu peux utiliser Autolib pour livrer des pizzas, non?
Bah, toujours dans mes bonnes anecdotes, c'est un taxi parisien et pas un Uber qui me racontait justement cette concurrence déloyale de chauffeurs Uber qui utilisaient non pas des berlines noires mais des Autolib. Donc double combo de design de service. En fait, c'est un peu comme une fractale, un service, on appelle un autre et on retombe toujours dans une location de quelque chose. Et donc, on en revient à cette question de départ finalement. Est-ce que ça a encore du sens de penser la voiture autonome telle qu'elle, seule, sans tout l'écosystème de services et d'usages, de pratiques et de genres qui les entourent?
Bah, c'est quelque part l'intention de l'émission aussi, hein, c'est de penser toutes ces combinaisons inattendues et les écosystèmes. Quand même, comme on était sur les questions de genre, à chaque fois, je fais mon petit point sur quelque chose qui est intéressant. Il y a une application, un service de type Uber. Normalement, je devrais désister, mais là, j'avoue que ça m'a quand même séduit. Ça s'appelle Rendezvous. Je fais exprès de le dire comme ça parce que ça s'écrit de cette manière. C'est un mot français anglicisé. Et en fait, c'est un service de type Uber pour donc les travailleurs et travailleuses du sexe. Ça leur permet de rentrer après leur journée ou nuit de travail dans des conditions safe. Et ça, c'est quand même plutôt intéressant.
Oui, bon, alors, on est encore dans le service de 1 pour 1. Enfin, encore, pour une fois, j'imagine... On retombe dans ce truc de à l'opposé des communs, peut-être à l'opposé du bus. Finalement, peut-être que la voiture n'a pas fini d'être individuelle. Même dans les voitures en location, il y a toujours ce taux d'occupation assez terrible de 1,2 occupants dans une voiture, alors que ça prend beaucoup plus de mètres carrés au sol. Et puis le prix surtout reste très élevé. Enfin, une Autolib, au niveau de la subvention urbaine, c'est juste monstrueux par rapport à ce que coûte un véhicule normalement.
Bah, t'as raison de pointer le coût, et puis il y a quand même un rapport de projection dans les imaginaires. C'est vrai que la voiture est un lieu d'intimité, hein, et pas seulement quand on fait des trucs bizarres avec le pot d'échappement. Il y a quand même le rapport, enfin au-delà de ce rapport de possession, il y a une projection de soi dans le véhicule, une personnification de la voiture. On a écouté tout à l'heure Christine, donc la voiture peut être anthropomorphe, mais on s'y projette aussi. Moi, il me semble aussi déceler quelque chose dans le succès de Cars, je crois que c'est de Pixar, Cars. Les enfants sont très très fans de ça, il y a quand même quelque chose derrière la manière dont la voiture nous regarde et nous reflète en fait.
Oui, après, on peut se demander si cette voiture autonome, on peut encore la pimper. Et peut-être c'est dommage qu'on ne puisse plus la personnaliser. Il y a cette application What's Your Ride. On peut connecter un téléphone à la voiture pour la pimper. C'est très drôle.
Non, je crois que c'est juste tu la prends en photo. Ah. Non, ça, t'as rêvé, Anthony. T'as rêvé de ton application idéale pour pimper ta voiture.
Tu as dû confondre avec, avec Jackie Touch. C'est pas possible.
Non, mais il pose sa candidature pour Top Gear. Il va nous quitter, je te dis.
Proms. C'était CPU, le programme Carré Petit Utile. Pour cette release, l'équipe était composée sur le véhicule Pia Pandelakis, Chief Wheeling Steering Officer, Anthony Mazur, Chief Clutch Housing Officer, Das Kritsch, Chief Exhaust Pipe Officer. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. L'intégralité du programme, les extraits et les sources sont disponibles sur le site cpu.pm. Vous pouvez commenter et partager. À l'exception des parties musicales et des extraits de films, les chroniques sont en Creative Commons. Prochaine release, nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Et si vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique, il est presque midi. Nous cédons à Monique Blanquet pour son impromptu cultivé que vous pouvez écouter dans votre autoradio RDS sur les 89,1 mégacycles en modulation de fréquence sur la rocade toulousaine. On couvre très bien. On prend la voiture pour rentrer ?